À la une de ce journal, ce bouton pour donner l'alerte sur les violences faites aux femmes. On parlera aussi de ce projet de cargo à voile entre la Bretagne et le Fénois. Et à la fin, vous entendrez le grand patron des Jeux du Pacifique. Le journal de la mi-journée de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Charlie, nous sommes le 25 novembre et c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Et c'était l'occasion pour la vice-présidente Minari Galnon, en charge de la condition féminine, de présenter ce matin un nouveau dispositif expérimental pour protéger les victimes. Ce bouton SOS est un petit appareil discret de la taille d'une télécommande de portail à garder sur soi et à utiliser en cas de danger. Dès qu'il est activé, il alerte un opérateur qui peut géolocaliser la victime et alerter soit un proche, soit les pompiers ou les forces de l'ordre. On écoute Nathalie Claude de la société NS Citadel, spécialiste de la télésurveillance.
Au moment où elles appuieront, on aura, nous, dans notre centre de surveillance, une géolocalisation et une alerte qui va nous arriver sur nos écrans. Donc, dans un premier temps, on a l'opérateur qui va écouter et analyser la nature du déclenchement. Et par rapport à cette analyse, pourra déclencher le protocole adapté. C'est-à-dire où on appelle un aidant parce que ça ne nécessite pas une intervention autre que l'aidant. Et où un aidant et les pompiers s'il y a vraiment blessure, ou alors les forces de l'ordre s'il y a besoin.
Voilà, et la société sera à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en collaboration avec ses équipes en métropole. Ses opérateurs auront des numéros d'accès rapides aux pompiers et à la police, bien sûr. Une expérimentation avec 20 appareils est prévue dès l'année 2025. Leur coût est pris en charge par le pays, c'est ce qu'explique Minari Galnon.
Par bouton, cela fait 80 000 francs, parce que n'oublions pas qu'il y a une convention de partenariat aussi avec une société. C'est une commande de 100 boutons, mais pour commencer pour l'année 2025, je vais expérimenter sur 20 boutons, parce que comme je disais tantôt, on fera des bilans chaque mois pour voir comment ça fonctionne.
Voilà, ces boutons seront distribués via les associations et les confessions religieuses dont les responsables seront formés par l'entreprise de surveillance. On rappelle que la Polynésie recense 3000 signalements par an pour violences faites aux femmes, soit 8 par jour.
Toujours du côté politique, ce texte qui doit être étudié à l'Assemblée et qui donne encore 2 ans de plus au CRSD.
Et oui, les CRSD, ça veut dire contrat de redynamisation des sites de défense. Et ils ont été signés, voilà, 8 ans déjà, entre l'État, le pays et certaines communes de Polynésie. Le principe, il est simple, l'armée identifie des sites qui ne lui servaient plus ou peu. Les communes y présentent un projet porteur. L'État leur transfère la propriété pour un franc symbolique et soutient financièrement avec le pays la reconversion de ces terrains. On parle tout de même de 1,2 milliard de francs de subventions cumulées qui devaient être utilisées en 4 ans jusqu'en 2020 donc. Mais ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a eu les problèmes d'amiante et de pollution des sols sur certains sites. Il y a eu les difficultés des communes à définir leurs projets et puis le Covid qui n'a pas aidé. Bref, des avenants successifs ont été signés pour revoir les montants d'aide à la hausse, le total a presque doublé, et puis surtout pour repousser la durée des CRSD jusqu'à cette année. Sauf que les communes ont toujours beaucoup à faire pour aboutir sur leur projet, d'où ce nouvel avenant, le quatrième, qui repousse à fin 2026 à la fin des contrats. Il est présenté à l'Assemblée cette semaine. Le temps d'avancer donc dans les zones d'activité prévues à Aroué ou Maïna, dans l'aménagement du port voulu par Papété, dans le marché de proximité de Fa, et puis aussi côté Taïalapu dans les projets très peu avancés du côté du fort ou du centre nautique de Tahotira. Autant de projets qui seront de nouveau discuter lors d'un comité de pilotage du CRSD, ce sera le 4 décembre.
Transport maintenant avec ce projet de cargo à voile entre Saint-Malo et Papeete.
Le Paifano, c'est le nom de ce bateau. Il fonctionnera en motorisation hybride, 3 moteurs avec une énergie bas carbone et puis des voiles. Grâce à ce mix, l'armateur Eco-Transocéan veut transporter du fret de manière plus écologique qu'avec des porte-conteneurs classiques. Alors comment ça marche? Avec des Ocean Wings, des voiles spéciales qu'on peut déjà voir sur certains bateaux et notamment le Canopé qui effectue des trajets vers la Guyane, notamment pour amener les pièces de la fusée Ariane. On écoute les explication d'Ambroise Seffer qui est à l'origine de ce projet.
C'est des voiles qui sont faites sur le principe d'une aile d'avion. En fait, c'est le même principe, sauf que bah, les ailes d'avion, forcément, c'est à l'horizontale, et donc là, elles sont mises à la verticale. Et ça agit pareil, voilà, il y a un volet, et ça permet d'être très efficace comparé à un système de propulsion qui ferait la même surface. Ils sont entre, je crois qu'ils sont quasiment 2 fois plus efficaces.
Voilà, départ donc de Saint-Malo, où est actuellement basée la société d'armement Eco-Transocéan, et direction Papété, en passant par Pointe-à-Pitre et le canal de Panama. Retour bien sûr, 6 semaines aller, 6 semaines dans l'autre sens. Les porte-conteneurs classiques mettent environ 4 semaines à l'aller, mais 7 à 8 au retour. Le Paifano serait donc plus rapide, moins d'escale, pas d'arrêt dans les gros ports où les bateaux doivent patienter pour leur chargement et déchargement. Ce navire de 80 mètres pourrait transporter jusqu'à 1600 tonnes, 4 fois par an. Les créateurs du projet discutent actuellement avec des sociétés en France et à Tahiti pour trouver des marchandises.
Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un transport comme le nôtre, même s'il est peut-être un peu plus cher, au final, les prix vont être aussi beaucoup plus stables parce qu'il n'y a pas de facteur d'ajustement par rapport au combustible utilisé sur les navires. Plus les cours de l'énergie montent, plus le prix du transport monte, le prix de l'essence, enfin, du gasoil et autres monte, plus le prix du transport est important aussi. On est en train de mettre des taxes un peu dans tous les sens, donc moins on va consommer de carbone, plus on va être vert, moins on sera assujetti à ces taxes aussi.
Voilà, ce cargo vert Païfano est surtout présenté comme un atout pour les entreprises qui voudraient valoriser un label bas carbone et développer une image verte donc. Il y aura même quelques places pour les passagers à bord. La société espère attirer des scientifiques et des artistes notamment. Le bateau est encore en projet. Les armateurs espèrent sa construction en 2026 pour un lancement en 2027.
On reste dans les transports, mais on va sur la route avec ce séminaire qui commence demain.
Oui, la direction des transports terrestres et le Haut Commissariat réunissent tous les acteurs de la sécurité routière pendant 2 jours pour faire évoluer les techniques de prévention, les outils de répression et même la réglementation. Ensuite, ce sera le grand public qui pourra venir tester plusieurs installations sur la place Toita, démonstration de désincarcération par les pompiers, simulateur de choc frontal. Les travaux de ce séminaire professionnel et cette journée grand public permettront de donner des idées au futur comité de sécurité routière. Il doit se réunir en début d'année prochaine et proposer des solutions pour améliorer la sécurité en routière en Polynésie, car il y a encore beaucoup de morts sur les routes, 3 fois plus qu'en métropole en proportion. 29 personnes ont perdu la vie sur les routes du Fénois depuis le début de l'année. La dernière, c'était ce week-end lors d'un accident de scooter à Raiatea.
Un président en visite au Fénois, le président du PGC.
Oui, il s'appelle Vidya Lakhan. Il dirige donc le Conseil des Jeux du Pacifique ou Pacific Game Council, l'entité propriétaire de l'événement sportif, chargée de désigner le pays hôte et de contrôler le bon déroulement de l'organisation. On en a déjà parlé, il vient au moins une fois par an depuis l'attribution de l'organisation des Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Et cette semaine, nouveau point d'étape, donc lors d'une visite express de 2 jours. Ce matin, le président du PGC a tenu une réunion avec le comité organisateur des Jeux. Il dit très bien s'entendre avec le COPF, un comité qui comprend les Jeux et qui savent ce qui doit être fait. Demain, il se rendra au premier comité stratégique des Jeux du Pacifique, un comité de pilotage de l'événement qui implique notamment le pays, mais aussi l'État et d'autres acteurs de l'organisation. Un gouvernement avec qui il précise aussi avoir de très bonnes relations.
Nous savons qu'il y a eu un changement de gouvernement en 2023. Il y a un gouvernement différent. Nous avons un très bon rapport avec le président du pays, M. Broderson. J'ai une très bonne relation avec lui et ses ministres. Donc nous sommes très heureux parce que parfois il peut y avoir des problèmes et nous avons eu ce problème dans le passé, pas nécessairement ici mais dans d'autres pays. Quand le gouvernement a changé, ils avaient différentes idées, mais ici maintenant ça se passe très bien.
Et ce comité de pilotage, très important pour valider l'implication de tous les services du pays, il sera aussi l'occasion de faire un point calendrier, notamment en ce qui concerne les investissements nécessaires pour les infrastructures. Alors on le rappelle, elles doivent être livrées 1 an avant l'événement, c'est en tout cas la règle. On parle par exemple de la piste d'athlétisme de Itia, dont les travaux doivent débuter en janvier, ou encore de la piscine qui doit être encore commandée. L'appel d'offres a été lancé, puis installé à Mamao, ce qui rencontre plusieurs contraintes techniques. On écoute le président du COPF, Louis Provost.
2026, c'est la date qui est prévue également, hein, parce que les installations doivent être rendues et les chefs de mission sont là pour constater un an avant. Je pense que c'est juste une question de volonté, de vouloir, je dirais, rassembler que tout le monde s'investisse. On a des retours sur certaines difficultés, mais je pense qu'il faut que le président, effectivement, maintenant, donne le starter, on voit le coup de fusil qu'il faut.
Voilà le président du COPF, Louis Provost, qui devrait à nouveau accueillir Vidya Lakhan l'an prochain, probablement en fin d'année, explique le président du PGC. La confiance est là, assure Louis Provost, à moins de 1000 jours de Tahiti 2027.
Et tant qu'on parle de sport, on revient en bref sur les résultats de ce week-end, côté mer d'abord.
Avec la 3e édition de la Tahiti Swim in Dream, qui a tenu son épreuve reine ce samedi, après la traversée Raiateata. C'était entre Tahiti et Moorea qu'on nageait une quarantaine de courageux participants, 24 km à la nage, enrôlés pour la plupart et sous les encouragement de la championne olympique Sharon Van Roovendaal. Un seul participant s'était lancé sans relais. Il s'agissait de Steven Lorzil qui a relié les deux îles en 6h50. Le record est toujours détenu par Naël Roux en 5h38.
Et puis il y avait aussi du sport côté route ce dimanche.
Oui, pour une nouvelle épreuve qui a su attirer du monde sur le front de mer de Papeete. Un Ekiden, ça vient du Japon et ça consiste tout simplement à courir un marathon ou un semi-marathon par équipe de 6 ou 3 coureurs. Visiblement, le format a beaucoup plu. 915 participants, plus ou moins expérimentés, est aligné. Et à l'arrivée, pas de surprise, c'est une Dream Team de champions qui s'impose en 2h38, pas si loin du record d'Océanie, et ce malgré les fortes chaleurs de ce dimanche. L'équipe était composée de Gwenaëlle Roby, Toutéa Degage, Teva Poulin, Delby Villagongora, Thomas Lubin et Benjamin Zorniotti, qu'on écoute.
On n'avait pas tous les hommes forts aujourd'hui. Je pense que l'homme fort, c'est quand même Damien Trocnet qui est pas là. Donc déjà, bon, on nous ampute du meilleur élément. On a voulu quand même faire avec les armes qu'on avait. Petite touche féminine, comme disait Delby, ça a fait du bien, surtout que c'était notre capitaine. Donc on s'est tenu à carreau. Et du coup, c'était un peu ça l'idée, mais aussi passer un bon moment et montrer aussi que la course à pied sur route a quand même une belle perspective d'avenir, parce qu'on voit que là, on rassemble facilement 1000 personnes sur une première édition. Donc c'est quand même incroyable, c'est sold out.
Voilà des propos recueillis par Veitia Reperer, qui a donc couru avec son micro à la main, puisque Radio 1 et Thierry FM avaient aussi leur équipe pour cette Equidène. 3h57, c'est un peu moins rapide, mais c'est pas mal tout de même, c'est à vous d'en juger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, vous retrouvez votre info sur nos ondes à partir de 16h pour le flash de la rédaction.
Merci Charlie pour ce journal. Maintenant, on retrouve la météo sur Radio.